Bonjour et bienvenue à cette édition de Radio Linguistica. Qui ne connaît pas l'embarras devant un menu à l'étranger qu'on ne comprend pas ou mal? C'est la fin des haricots, c'est la fin du monde, ou on est dans la choucroute, dans l'embarras. Pour ne pas se ridiculiser, on commande un plat quelconque, on se laisse rouler dans la farine, on se laisse là avoir. À la fin, on reçoit un repas qu'on n'aime pas et les oseilles n'ont plus la côte. L'argent est perdu. Vu la longue tradition de l'art culinaire en France, le français de cuisine tend des pièges tout à fait particuliers aux non-initiés. À l'occasion de la présidence française du Conseil, le département français de la DGT se penche sur ce domaine linguistique avec une série de desserts, un par mois, ou avec des glossaires, des explications et des recettes. Je salue ici notre collègue Marie-Alice Benard, qui a déjà publié un article sur la galette des rois que vous trouverez sur DGTNet. Bonjour Marie-Alice.
Bonjour Conrad et bonjour à tous les collègues.
Eh bien, Marie-Alice, comment toi et tes collègues vous en êtes arrivés à cette idée?
On s'était réunis pour rechercher des idées afin de faire connaître le français, la France et ses traditions aux autres collègues de la DGT. Et en parlant entre nous, on s'est aperçu que le thème de la gastronomie française nous plaisait beaucoup parce qu'on s'est dit que c'était une façon très agréable d'aborder une langue, d'en découvrir les subtilités à travers les plats, puisqu'on sait que dans beaucoup de langues, la façon dont les gens se nourrissent influe sur la langue.
Peux-tu nous raconter un peu sur la langue française de cuisine, son histoire et son développement?
La langue a effectivement été beaucoup marquée par l'histoire, puisqu'on s'aperçoit qu'en fonction des souverains, des influences de l'étranger, de la culture, donc aussi bien les opéras, la littérature, tout ça a eu une influence sur les plats que nous mangeons et sur les expressions que nous employons. Et je me suis notamment aperçue de la complexité du français de cuisine quand je retrouvais des collègues non francophones pour aller à la cantine simplement de la commission au Jean Monnet, et où les collègues me disaient « mais c'est quoi aujourd'hui au menu ? Parce que là, je ne comprends pas c'est quoi cette sauce ou qu'est-ce que ça veut dire ?» Et donc on s'est effectivement aperçu que voilà, la gastronomie était un domaine très particulier et qui nécessitait des connaissances spécifiques. C'était pas donné à tout le monde.
Eh bien, une initiative, c'est le dessert du mois. J'ai déjà mentionné un petit peu. Explique-nous cette initiative, s'il te plaît.
Alors, on se propose de faire découvrir aux collègues un dessert par mois, en rédigeant un petit article qui va expliquer un peu l'origine de ce dessert et aborder peut-être le côté linguistique aussi qui peut être lié à ce dessert. Et on va en donner la recette. Lorsque les conditions sanitaires le permettront, on espère pouvoir organiser des dégustations pour faire connaître tous ces desserts à nos collègues. Et donc au mois de janvier, j'ai commencé très naturellement par la galette des rois, puisque c'était le plat de saison et que c'est quelque chose qui est très spécifique, en tout cas celle que j'ai décrite, la galette à la frangipane, c'est très particulier. Il y a des versions différentes selon les régions et aussi selon les pays, puisque les collègues ont réagi en indiquant que chez eux c'était parfois autre chose ou ça n'existe tout simplement pas.
Et est-ce qu'il y a déjà des plans pour d'autres desserts ou est-ce que toi tu le décides ou vous le décidez au fur et à mesure?
Là, on a déjà des plans. J'ai proposé aux collègues pour voir qui voulait participer pour février. Et puis, devant l'afflux de candidatures, on est en train déjà de planifier les 6 mois de la présidence pour vous faire découvrir des petites douceurs et puis des caractéristiques linguistiques liées à ces douceurs.
Bon, hors une dégustation, on pourrait imaginer aussi un cours de cuisine, mais là, il faut évidemment une cuisine pour faire ces desserts. Mais...
Effectivement, on avait pensé à ça, faire des ateliers où les collègues auraient pu venir et participer, mais là, c'était d'un point de vue logistique, c'était plus difficile à mettre en place. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de plan là-dessus, mais ça peut aussi se faire en dehors de la présidence ou en dehors de la commission si on a des volontaires ou des gens intéressés.
Alors, il peut s'adresser à toi pour indiquer leur intérêt à un tel atelier.
Pourquoi pas? Ça serait une bonne idée d'avoir un peu une activité en dehors du travail aussi, et puis de faire peut-être quelque chose de plus familial ou amical, suivant les souhaits des collègues. Pour tous ceux qui auront envie de devenir cordon bleu, comme on dit en France, eh bien voilà, ça serait l'occasion de s'adonner à la cuisine, de se mettre au fourneau tous ensemble.
C'est-à-dire être un cordon bleu, ça veut dire être un bon cuisinier.
Voilà, tout à fait.
Eh bien là, on voit là. Bon, explique, s'il te plaît, ce que c'est ici.
Alors là, c'est une galette des rois que j'ai réalisée pour le jour des rois, donc le 6 janvier. Et c'est une pâte feuilletée qui est fourrée avec de la pâte frangipane. Normalement, c'est une crème pâtissière avec de la poudre d'amande, mais moi j'ai une version simplifiée où on n'a pas de crème pâtissière, on fait juste de la poudre d'amande, du beurre, du sucre et des œufs. Et ça a un goût très particulier, très apprécié. Et l'autre particularité de la galette des rois, c'est qu'on y glisse une fève. Et donc celui qui trouve la fève devient le roi d'un jour. Et les fèves sont très variées. Moi, je les collectionne. J'ai découvert aussi un groupe Facebook où on fait des échanges de fèves, mais c'est très amusant parce que suivant les pays, ici au Luxembourg, les différentes pâtisseries sortent des séries limitées. Et je fais des échanges aussi avec des collègues de Bruxelles, ce qui me donne l'occasion de découvrir d'autres thèmes pour les fèves.
D'ailleurs, à Bruxelles, dans les musées royaux de l'art, il y a des beaux-arts, il y a un tableau de Jacob Jordaens, un peintre flamand du baroque, 1640, qui s'appelle The Koning Drinkt, le roi boit. C'est-à-dire, explique-nous un petit peu ce que ça veut dire. C'est tout à fait cette scène de la galette.
Eh bien, effectivement, celui qui trouve la fève devient le roi, mais en contrepartie, il doit payer la tournée, c'est-à-dire offrir à boire à tous les convives de sa table. Et tout le monde se mettait à saluer le roi quand il levait son verre pour porter un toast aux gens de sa table.
Bien, la langue française de cuisine, ce n'est pas que la langue des menus et des recettes. De Rabelais est transmise la citation « Se nourrir est un besoin, savoir manger est un art ». Cet art occupe une place éminente dans la culture française, de la haute littérature jusqu'aux bandes dessinées populaires. Raconte-nous, s'il te plaît, un peu sur cet aspect de la langue de cuisine.
Mais là aussi, en échangeant avec les collègues, nous nous sommes aperçus que chacun repensait à un roman, un livre lu où on parle de la cuisine. On a, par exemple, dans Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, on a une scène avec de longues descriptions des poulets et des dindes à la broche ou la façon de réaliser des tartelettes Amandine. On trouve aussi beaucoup de choses. Mais on a bien sûr la Madeleine de Proust qui est devenue une expression. Mais ça, je ne vous en dis pas plus. Vous le découvrirez prochainement sur DGTNet. Ensuite, Balzac aussi a des passages sur la nourriture. Et il n'y a pas seulement la littérature qui évoque la nourriture et qui la fait rayonner dans le monde. On a aussi recensé pas mal de films qui évoquent la gastronomie française. Donc, il y a le Grand Restaurant ou L'Aile ou la Cuisse avec Louis de Funès, le film Chocolat avec Juliette Binoche, le dessin animé Ratatouille qui a fait plus récemment beaucoup d'adeptes. Et puis on pense aussi à la préparation du cake ou du puits d'amour dans Peau d'âne. Donc il y a beaucoup de choses dans notre culture qui sont liées à la gastronomie et qui parlent de la cuisine. Les bandes dessinées, tout le monde pensera bien sûr à Astérix et Obélix, où chaque histoire se termine forcément par un festin sous l'arbre où le druide est attaché d'ailleurs.
Eh bien, ce n'est donc pas surprenant que la langue quotidienne soit bourrée de métaphores culinaires et gastronomiques. Peux-tu nous dire quelque chose à ce sujet?
Oui, j'avais pris une photo l'été dernier dans un potager où j'étais passée, où il y avait beaucoup de petites pancartes qui reprenaient des expressions avec des fruits et légumes. Et ça m'a amusée parce que quand on a commencé à faire notre brainstorming avec les collègues, ça m'est revenu en tête. Il y avait notamment une petite pancarte avec « J'ai la patate ». Et on a aussi l'expression équivalente qui est j'ai la frite, c'est peut-être pour les Belges, qui veut dire je suis en forme, je suis rempli de tonus. Ne raconte pas de salade pour dire à quelqu'un arrête de mentir ou d'essayer de nous rouler. Avoir un cœur d'artichaut, c'est ce qu'on dit de quelqu'un qui est très sensible ou qui tombe facilement amoureux. Ce ne sont pas tes oignons pour dire occupe-toi de tes affaires. Les carottes sont cuites quand une situation est désespérée ou quand c'est terminé, on ne peut plus rien changer. Comme tu as mentionné tout à l'heure, là, c'est la fin des haricots. On a aussi l'expression c'est bête comme chou pour dire que c'est tout à fait facile. On parle aussi de quelqu'un quand il est une victime et qu'il se fait duper, mais on dit que il est le dindon de la farce. Quand on ne se sent pas bien, on va dire je ne suis pas dans mon assiette. Ou si on dit du mal de quelqu'un pendant son absence, l'expression c'est casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Donc on s'aperçoit que voilà, il y a beaucoup d'expressions qui pour nous Français sont très simples et très parlantes, mais qui, pour des étrangers, nécessite quelques explications quand même.
Et peut-être vous publierez un glossaire ou est-ce que vous avez peut-être des plans à ce sujet?
Pour l'instant, on s'est surtout beaucoup amusé à rassembler les expressions ou toutes les choses qui nous passaient par la tête en rapport avec la gastronomie et l'alimentation. Donc, pour l'instant, on a juste une page wiki qu'on partage entre nous. Mais en faisant des recherches sur Internet, je me suis aperçue qu'il existe déjà beaucoup de lexiques, de glossaires. Donc, je ne sais pas si ça sera nécessaire qu'on concrétise vraiment quelque chose. Mais bon, Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que c'est un thème qui nous a beaucoup motivés. On s'est aperçu que sur les initiatives proposées, c'était quand même la gastronomie qui avait rallié le plus de collègues.
De toute façon, nous allons publier les liens vers les sites intéressants qui traitent de la langue française de cuisine dans la newsletter de Sophia et
D'accord.
autres liens intéressants. Eh bien, malheureusement, Jean-Pierre Dubout n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Il s'occupe avec sa femme depuis des décennies de la terminologie culinaire et gastronomique. Ce n'est pas une surprise que cette initiative soit née en Suisse. En effet, la gastronomie de ce petit pays fonctionne en quatre langues, surtout en allemand et en français, évidemment, mais aussi en italien et en rhéto-roman, une langue tout à fait petite, qu'on parle dans le Grisons, dans le canton Grisons. Le couple Dubout a publié des dictionnaires en 10 langues qui font la loi dans l'hôtellerie. Maintenant, on peut consulter les bases de données énormes Dubout aussi en ligne. Le lien avec tous les liens aux sites intéressants, comme j'ai déjà mentionné dans ce domaine, par exemple, la route des gourmets avec l'explication de beaucoup d'expressions culinaires, nous publierons plus tard dans la newsletter de Sophia. Est-ce que tu connais ce dictionnaire de Dubout?
Non, je ne connaissais pas avant notre émission, mais du coup, je vais aller le consulter parce que je pense que ça doit être très intéressant de découvrir les subtilités. Comme par exemple, je pensais en passant en revue, on a en français, on peut dire on va chemiser un moule à gâteau. Dans une recette, on peut trouver ça comme étape, chemiser un moule à gâteau. Ça veut dire simplement y mettre une très fine couche, un nuage de farine pour que la pâte ne colle pas. Mais après, on va foncer le moule. Et là, ça veut dire y déposer la pâte, une pâte sur laquelle on fera une tarte ou quelque chose comme ça. Et j'imagine que ça doit être amusant de chercher, voilà, justement dans ce dictionnaire en ligne et voir un petit peu comment chaque langue rend ses subtilités parce que c'est vraiment des choses très, très pointues.
Oui, quand on voyage, on voit souvent des traductions des menus assez intéressantes et d'autres expressions culinaires. Peut-être tu peux nous dire quelques exemples que tu as vus.
Oui, mais c'est justement, je vais souvent en vacances en Espagne et c'était au robinet l'endroit où on pouvait se servir soi-même les boissons. Il y avait noté still water pour aqua sin gas et en dessous c'était Immer noch Wasser en allemand. Donc déjà, c'était amusant. On a parfois eu des menus qui étaient en espagnol et à côté traduits en français où on riait parce qu'il y avait des choses où on devait manger. Je sais plus si c'était des semelles ou des tiroirs. Il y avait des expressions qui étaient vraiment traduites mot à mot et qui, malheureusement, ils n'avaient pas choisi le bon mot. Et puis on s'est aussi aperçu de cette difficulté quand on est allé au Danemark avant que notre fille s'installe pour y étudier 1 an, mais là on a vraiment apprécié d'avoir un téléphone, un smartphone et de pouvoir consulter Google Translate parce que sinon on était devant les menus et là nous pauvres Français on était complètement perdus, on n'avait pas la moindre idée de ce qu'on risquait de manger. Au bout de 15 jours, on avait quand même retenu les principes de base pour pouvoir s'orienter déjà dans une carte.
Oui, moi j'ai eu une expérience il y a très longtemps en Hongrie. À l'époque, malheureusement, il n'y avait pas de smartphone et tout ce qui était écrit en Hongrie était en hongrois, rien d'autre. Et les gens ne parlent pas d'autres langues, surtout en campagne. Alors, on était devant un grand menu, souvent, même à l'époque socialiste, restaurant avait des menus assez importants. On mangeait toujours bien en Hongrie, mais on était complètement perdu. Alors il fallait juste montrer sur la carte, moi je veux ceci. Et puis c'était toujours une surprise, mais c'était toujours bon parce que la cuisine hongroise est bonne. Et comme ça, on a survécu. Mais à l'époque, on aurait bien voulu avoir un smartphone pour nous orienter un petit peu, parce qu'on ne savait même pas si c'est de la viande ou du poisson. C'était toujours une grande surprise. Eh bien, nous sommes presque arrivés à la fin de notre petite excursion dans la langue française de cuisine. Après tout, ce qu'on a entendu, ce n'est pas étonnant que l'expression vivre comme un coq en pâte se traduit en allemand vivre comme Dieu en France, Leben wie Gott in Frankreich. Eh bien, c'est donc un domaine très intéressant et très important de la langue française, et je vous invite tous d'étudier les recettes, les desserts du mois sur DGT.net, et vous pouvez vous adresser, comme on a déjà dit, à Marie-Alice si vous êtes intéressée. Peut-être on peut un jour organiser un atelier de préparation de dessert, par exemple, ou un autre aspect plutôt linguistique de la langue. Et comme j'ai déjà dit, on va publier aussi tous les liens qui peuvent être intéressants pour ceux qui s'intéressent à la langue française de cuisine. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Alice, et beaucoup de succès avec cette initiative.
Merci beaucoup, Conrad, et puis merci à tous les collègues qui participent, soit en écrivant, en rédigeant avec nous ou en nous lisant et en faisant des commentaires qui sont toujours appréciés. On va s'occuper de vous aux petits oignons.